VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h à Maroua, au Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Maroua toujours sous le choc. 24 heures après le double attentat qui a frappé cette ville de l'extrême nord du Cameroun, deux jeunes filles se sont faites exploser. La sécurité dans la ville a été renforcée ce jeudi. Tatiana Mosso.
C'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, qui a annoncé les nouvelles mesures. Il y aura désormais un contrôle des véhicules, des biens et des personnes. Certains passages de la frontière avec le Nigeria ont été fermés.
Nous avons demandé à la police, à la gendarmerie, de sécuriser davantage ces marchés, d'instituer des ceintures de sécurité. Et il y a certainement des stratégies militaires que celles seront déployées. Des mesures ont été données en effet d'assurer au maximum la sécurité des biens et personnes.
Ces mesures viennent s'ajouter à l'interdiction du voile intégral décidé il y a 2 semaines après l'attentat de Fotokol. Les djihadistes de Boko Haram ayant pris l'habitude de se servir des femmes kamikazes. Le président camerounais Paul Biya a condamné ces récentes attaques, appelant la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les forces de sécurité.
En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont enlevé le 9 juillet dernier le maire et le sous-préfet de Baboua dans l'ouest de Bangui. Monsieur David Boko et Samuel Toura revenaient d'une réunion de restitution sur le forum de Bangui organisé par le ministre résident de la dite cité. Lorsqu'ils sont tombés entre les mains de leurs ravisseurs, des précisions avec le préfet de la Nama Mambéré, Frédéric Waganda, joint par Félix Yepassis Zembrou.
Bon, en fait, le sous-préfet de Baboua et le maire de Baboua, comme les autres sous-préfets de la Nama Mambéré et les maires, ont été conviés à la réunion de restitution sur le forum de Bangui. Et cette réunion était présidée par le ministre résident. Ils étaient arrivés, ils ont participé à la réunion. C'est à leur retour qu'ils ont été kidnappés.
Ben, il s'agit donc du maire et du sous-préfet uniquement.
Bon, ils étaient nombreux parce que ces malfrats, quand ils étaient sortis, ils arrêtaient tout moto, tout véhicule, systématiquement, les gens étaient dépouillés. Mais comme le maire et le sous-préfet revenaient sur leur moto, et quand ils les ont appréhendés, ils ont demandé l'identité de chacun. Mais le maire, lui, comme il portait sa médaille de maire, on l'a vite reconnu et le sous-préfet a donné son identité aussitôt. Ils ont libéré les autres otages qu'ils ont pris et ils ont gardé le maire et le sous-préfet.
Mais qui sont ces auteurs d'enlèvement?
Bon, vous savez, présentement, l'identité des auteurs n'est pas encore reconnue, mais des contacts ont été déjà établis. Mais vous savez, comme nous sommes en discussion, il y a le secret et la discrétion qui est aussi là, monsieur le journaliste.
Frédéric Waganda, sous-préfet de Baboua en Centrafrique. Le calme régnait aujourd'hui à Bujumbura. La contestation contre le président Pierre Nkurunziza s'étant résigné à sa victoire. Mais malgré la colère et la frustration couvent et ne demandent qu'à exploser, signale l'agence France Presse. Camille Gros-Didier.
Le président Nkurunziza, dont la candidature à un troisième mandat, inconstitutionnel selon ses adversaires, a plongé son pays dans une grave crise émaillée de violences meurtrières. Il semble assuré néanmoins de remporter dès le premier tour la présidentielle de mardi dernier, boycottée par l'opposition. À la mi-mai, une tentative de coup d'état militaire avait suscité quelques heures d'espoir au sein de l'opposition avant d'être déjouée. Le plus dur commence pour Nkurunziza car le contexte burundais est pré-conflictuel, a estimé Thierry Vircoulon de l'International Crisis Group qui est cité par l'AFP. Il y a une hausse de la violence armée, les défections se multiplient et montrent que le pouvoir est contesté de l'intérieur même. Les Burundais continuent à avoir peur et à quitter leur pays par anticipation d'un conflit. L'économie est en berne et la production agricole risque de baisser, a remarqué Thierry Vircoulon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La première visite de Barack Obama en tant que président des États-Unis en Afrique est surtout sur fond économique. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État américain se déplace au Kenya et en Éthiopie, Rachid Bouda.
Avant son départ, Barack Obama a plaidé pour une nouvelle dimension des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Face aux diplomates, dirigeants politiques et économiques réunis à la Maison-Blanche, il a renouvelé sa confiance aux Africains et prône le lancement de programmes pour développer le commerce, la santé et la sécurité alimentaire. Monsieur Obama prendra part au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le 25 juillet, une initiative qui rassemble des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. En plus du commerce et le développement, les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme seront aussi étudiées avec son homologue Uhuru Kenyatta et les dirigeants éthiopiens. Après sa visite au Kenya, la question du déficit démocratique africain sera évoquée devant les dirigeants de l'Union africaine à Addis Abeba, où prendront part 50 ONG africaines.
Ici même aux États-Unis, le Parti républicain compte désormais 16 candidats déclarés en vue des primaires pour l'élection présidentielle de 2016, le dernier étant le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Le premier débat entre républicains aura lieu le 6 août prochain. Pour l'instant, c'est le magnat de l'immobilier Donald Trump qui polarise l'attention. Mais les républicains sont-ils trop dispersés face aux démocrates que mène en ce moment Hillary Clinton? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à James Caesar. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Oui, il y en a 16, comme vous avez dit, et c'est un nombre extraordinaire. Ça se dit, on a le temps pour décider, et le nombre va certainement être moins dans 6 mois. Je ne vois pas exactement un problème, mais pour le moment, c'est un peu la pagaille, c'est vrai. Il y a la guerre entre les candidats, etc. etc. En effet, c'est trop dans un certain sens, mais on va voir la réduction du nombre.
Qu'est-ce que cela signifie pour les démocrates, notamment pour Hillary Clinton?
Alors, pour le moment, il n'y en a que 3, je crois, au sein du Parti démocrate. Ça le donne un avantage à Hillary, bien sûr, qui est la première, pas le temps de tel. Mais maintenant, pour le moment, il y a de concurrence, même au sein du Parti démocrate. Et je ne suis pas certain quelle sera la personne qui va être choisie. C'est extraordinaire le fait que le sénateur tout à fait inconnu, je parle de sénateur qui n'est pas même démocrate, sénateur de Vermont, Sanders, qui reçoit pour le moment beaucoup de soutien au sein du Parti démocrate. Ça montre une faiblesse. Le problème, c'est est-ce qu'il y a vraiment une alternative? À mon avis, ce serait possible, dans le sens que ce sera quelqu'un qui n'est pas encore décidé de faire la campagne pour le moment. Il y en a 2 dans ce camp-là. Il y a le vice-président Biden et il y a toujours le sénateur de Massachusetts, Senator Warren, qui peut être peut-être quelqu'un qui va décider à faire la cour.
Professeur James Caesar, joint à Charlottesville en Virginie. Le secrétaire américain à la Défense est maintenant à Bagdad pour une visite surprise en Irak. 4e étape de sa tournée au Proche et au Moyen-Orient qu'il a conduit auparavant, notamment en Israël et en Jordanie, après ses consultations hier avec les leaders saoudiens à Jeddah en Arabie Saoudite. Ash Carter s'est dit convaincu que Riyad approuve l'accord sur le nucléaire iranien négocié à Vienne en Autriche par l'Iran et 6 grandes puissances dont les États-Unis. Le directeur du FBI et la police fédérale américaine estiment que les efforts de recrutement d'Américains sur Internet par le groupe État islamique représentent un plus grave danger pour les États-Unis que les activités d'Al-Qaïda. James Comey précise que l'État islamique a probablement des centaines ou peut-être même des milliers de fans américains sur ses comptes Twitter. Et il a ajouté que le FBI a ouvert des centaines d'enquêtes sur des Américains attirés par l'État islamique. Enfin, la Maison-Blanche a fait savoir hier mercredi qu'elle met la dernière main à son projet de fermeture de la prison controversée de Guantanamo à Cuba. Le porte-parole de la Maison-Blanche, George Earnest, a déclaré que la présidence espère court-circuiter les républicains au Congrès. Barack Obama, qui s'était engagé à son arrivée au pouvoir en 2009 à fermer au plus vite ce centre de détention militaire, n'a pas réussi à faire aboutir ce projet en raison de difficultés juridiques soulevées par le Congrès. À ce jour, 116 personnes se trouvent encore dans la prison de Guantanamo. Je disais tout à l'heure que le directeur du FBI, la police fédérale américaine, estime que les efforts de recrutement d'Américains sur Internet par le groupe État islamique représentent en plus un plus grave danger pour les États-Unis que les activistes d'Al-Qaïda. James Comey, le directeur donc du FBI, précise que l'État islamique a probablement des centaines ou peut-être même des milliers de fans américains sur ses comptes Twitter. Il a ajouté que le FBI a ouvert des centaines d'enquêtes sur des Américains attirés par l'État islamique. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est exactement dans 50 minutes sur la même station. Merci de nous avoir choisis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.